Bonjour Ludivine Bantini.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'en quelques mots, avant qu'on commence cette interview, vous pourriez vous présenter un petit peu votre CV, ce que vous faites et pourquoi vous êtes là aussi?
Alors, je suis historienne et aussi chercheuse, enseignante. Je travaille depuis très longtemps sur les mouvements sociaux, les soulèvements populaires, l'histoire des conditions de travail, mais également l'histoire des révolutions. Je me suis beaucoup intéressée ces derniers temps à la Commune de Paris, révolution de 1871, et je suis donc venue en parler aujourd'hui à Ussel.
Pour ceux qui ne seraient pas férus d'histoire et qui ne se remettraient pas à cet événement, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la Commune de Paris?
Alors, la Commune de Paris a eu lieu entre le 18 mars 1871 et le 28 mai de cette même année. Donc, au total, c'est un épisode qui n'a duré que 72 jours, donc c'est très peu, et en même temps, c'est énorme, parce que c'est une révolution populaire, c'est une révolution aussi ouvrière, une révolution prolétarienne. C'est un moment où, en fait, une partie du peuple de Paris prend l'hôtel de ville, le 18 mars 1871, et instaure une forme de pouvoir alternatif à celui qui est présent à Versailles, sous l'égide du chef de l'exécutif de l'époque, qui s'appelle Adolphe Thiers. Donc on est au tout début de la Troisième République, et cette commune, avec le conseil de la commune, qui est élu par le peuple de Paris, eh bien, va mettre en place toute une série de mesures sociales, politiques, pour changer la vie. Ça, c'était les mots de Rimbaud, qui était fasciné par la Commune de Paris. Changer la vie, alors notamment par la proclamation de la laïcité, la séparation de la commune et de l'État, une manière de développer vraiment l'école gratuite, publique, considérée comme émancipatrice. Il y a aussi toute une série de mesures prises sur les enjeux du travail, hein, faire en sorte que le travail soit bien davantage coopératif, que le travail soit redistribué entre les producteurs et les productrices sans patron. Il y a également beaucoup de modalités de solidarité justement populaire, des cantines, des restaurants, des mutuelles, des formes de prévoyance, d'assurance sociale, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de mesures aussi sur l'art, notamment, hein, faire en sorte que l'art soit émancipateur, soit partagé au sein du peuple. Il y a une fédération des artistes avec le peintre Gustave Courbet qui se met en place à cette occasion.
Alors, j'en discutais tout à l'heure avec des membres d'associations qui sont là aussi ce soir et qui organisent ces conférences que vous donnez aussi. On en discutait parce que sur les affiches, notamment, il était marqué que la conférence portait sur la première révolution ouvrière. On est d'accord que la commune, c'est la première révolution ouvrière.
Oui, parce que donc, même si elle se réfère beaucoup à la Révolution française, en réalité, là, sa particularité, c'est que celles et ceux qui ont fait cette révolution, ce sont avant tout des prolétaires, des ouvrières et des ouvriers, des fabriques, des ateliers. Il ne faut pas encore se représenter de grandes usines. À Paris, il y a encore très peu de grandes usines, mais c'est un monde, justement, de petites entreprises. Il y a aussi beaucoup d'artisans, de petits commerçants, d'employés, de journalistes, d'artistes qui participent à cette révolution. Mais c'est vraiment, en effet, une révolution ouvrière, et c'est la première de l'histoire. Et en fait, c'est une des rares à avoir instauré un pouvoir avec ce conseil de la commune, dont la composition était principalement ouvrière et de manière plus générale populaire.
Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont organisé cette commune de Paris, est-ce qu'ils ont profité de ce, comment dire, de cette chose politique, de cette instabilité politique pour instaurer cette commune ou pas?
Alors la commune, elle est le fruit déjà de la guerre, hein, de la guerre qui avait été déclenchée par Napoléon III en juillet 1870 contre la Prusse. Et ça a suscité en fait la chute de cet empire, le Second Empire, hein, Napoléon III ayant été fait prisonnier le 2 septembre 1870 à Sedan. Donc c'est vrai qu'il y a une instabilité, et la commune, elle est aussi le fruit de la proclamation de la République, hein, qui a eu lieu le 4 septembre 1870, donc l'instauration de la Troisième République. Simplement, une grande partie du peuple de Paris déjà doit souffrir énormément de la guerre qui se poursuit, et en particulier du siège de Paris, siège que les troupes prussiennes imposent à Paris. Et donc ça crée vraiment une situation catastrophique sur le plan social. Il y a un immense désarroi, une immense détresse, du chômage, une forme de disette, une mortalité qui s'accroît de manière exponentielle, notamment la mortalité infantile. Donc on a vraiment faim à Paris au cours de l'automne puis de l'hiver 70-71. Et de surcroît, une partie de ce peuple n'a aucune confiance dans le régime républicain, tout juste mis en place, d'abord parce qu'on considère que c'est une république bourgeoise qui ne défend pas les intérêts des ouvriers, et ensuite parce que, à partir de février 1871, l'Assemblée tout juste élue s'est installée à Versailles, ce qui apparaît véritablement comme une provocation pour Paris, puisque Versailles, c'est évidemment la ville de la monarchie. Et d'ailleurs, il y a vraiment un risque pour la République de s'effondrer, car parmi les 600 députés de cette nouvelle Assemblée, 400 sont des députés monarchistes. Adolphe Thiers, donc le chef de l'exécutif, qui va devenir vraiment la bête noire d'une partie du peuple parisien, c'est un ancien ministre de la monarchie de Juillet, c'est un ancien ministre du roi Louis-Philippe. Donc c'est aussi un homme qui avait déjà ordonné des massacres contre des ouvriers, notamment les Canuts à Lyon dans les années 1830. Du coup, il y a vraiment toute une série de facteurs politiques et sociaux qui expliquent cette émergence de la Commune, y compris dans une rivalité directe avec la République siégeant à Versailles.
Comme on est en Corrèze et comme on est dans le Limousin, parlons de ce qui se passe localement. Quand il y a la Commune là à Paris, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Est-ce qu'il y a d'autres communes avec un C majuscule, hein, qui se sont formées ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tout ça, ça se passait à Paris? Est-ce que ça s'est transposé localement, par exemple, chez nous?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de Limougeaux qui ont participé à la Commune de Paris, et beaucoup de gens de la Creuse, en particulier les maçons de la Creuse qui étaient montés à Paris et qui faisaient partie de ce peuple ouvrier parisien qui a fait la Commune. Ça, c'est une première chose. Et donc, il y avait du coup des liens très étroits entre le Limousin et la capitale par le fait même de ces migrations régulière. Et puis, en fait, il y a eu des tentatives de communes dans de nombreuses villes de province. Alors, à Limoges, il y a eu une tentative, mais qui a été, en fait, assez vite avortée. La plupart des communes insurrectionnelles qui se sont déployées en province, alors je pense à la ville de Saint-Étienne, à Narbonne, à Marseille, à Lyon, la ville de Thiers également, la ville de la Coutellerie, à Alger aussi, à Toulouse. Enfin, toutes ces tentatives de communes ont assez rapidement été écrasées dans le sang. Elles ont été réprimées. Donc, au final, elles ont duré entre quelques jours et jusqu'à 2 semaines. Et à Marseille, par exemple, il y a eu une répression terrible, il y a eu 150 morts.
Qu'est-ce qu'on a gardé de cette période de la Commune aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, des symboles qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, par exemple ?
Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la mémoire de la Commune, elle a été surtout entretenue par les mouvements sociaux, syndicaux, les différentes gauches, politiques, entre autres, parce que sinon, cette histoire de la Commune, elle a été très peu diffusée. Elle a notamment été très peu enseignée. Elle n'a jamais été au programme, dans les programmes d'histoire, jusque tout récemment, jusque 2019. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire à propos de votre question sur ce qu'il en reste et ce qui s'est transmis dans la mémoire. Il y a eu quand même vraiment une chape de plomb, une sorte de chape d'oubli qui a été déversée sur la Commune de Paris, notamment parce qu'elle avait été très subversive, elle avait été révolutionnaire, elle avait contesté le pouvoir en place et elle avait surtout contesté radicalement l'ordre social. Et elle visait à une émancipation, notamment une émancipation par rapport à la logique du capital. Alors, c'est une révolution, même si le mot n'est pas employé à l'époque, mais c'est une révolution qu'on peut considérer comme une révolution anticapitaliste, puisqu'elle vise à s'extirper, en fait, de l'exploitation, hein, des rapports d'exploitation, des rapports sociaux d'exploitation. Donc, c'est autant de formes d'auto-organisation ouvrière et populaire. Ça laisse quand même un héritage. Ensuite, il y a une deuxième dimension qu'on entend beaucoup citer aujourd'hui, c'est la dimension communaliste. Voilà. C'est l'idée que au niveau local, la population peut s'organiser, délibérer, décider dans des assemblées populaires. Sous la Commune de Paris, il y avait énormément de clubs, d'associations, de sociétés de toutes sortes, qui avaient une grande activité politique, et notamment dans le monde ouvrier. Ensuite, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais la Commune, elle a proclamé la séparation d'avec l'Église, hein, de l'État et de l'Église. Donc ça, c'est une mesure qui a été prise bien avant la loi qu'on connaît, hein, celle de 1905. On peut aussi rappeler, hein, je l'ai aussi mentionné tout à l'heure, que cette commune, elle a fait énormément pour l'école, et notamment, c'est la première expérience d'école publique, gratuite, et qui continue d'inspirer aujourd'hui, hein, notamment par ses pratiques pédagogiques, qui étaient considérées comme des pratiques émancipatrice, donnant beaucoup de place à l'enfant en tant qu'il ou elle est susceptible, voilà, d'esprit critique, d'intelligence créatrice, etc. Donc voilà, c'est vrai que la commune, elle est beaucoup citée depuis quelques années dans les mouvements communalistes, dans celles et ceux qui veulent aussi réfléchir à ce qu'est une démocratie alternative à la démocratie représentative, une sorte de démocratie directe.
Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait revivre une commune, c'est-à-dire une classe qui s'insurge comme la classe ouvrière, même si elle est moins présente aujourd'hui en termes de population? Est-ce qu'on pourrait revivre une commune de Paris, je sais pas moi, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies? Est-ce que ça, ce serait possible?
Ah ben tout est possible, hein, évidemment. Enfin, je veux dire, ces configurations historiques, il n'y a aucune raison de les considérer comme appartenant seulement au passé. C'est d'autant plus possible, et c'est une hypothèse d'autant plus tangible, que justement, il y a de plus en plus de gens qui sont très perplexes, voire extrêmement en colère face à un système qui est jugé de plus en plus destructeur, face à une démocratie qui est jugée de moins en moins représentative, face à une déconnexion justement entre le personnel politique et la population. Donc oui, des mobilisations comme la Commune de Paris et des mouvements révolutionnaires sont toujours possibles. D'ailleurs, on ne cesse d'en voir, hein, un peu partout dans le monde. Hein. Il y a eu en 2018-2019 des soulèvements populaires à travers le monde, hein, de Hong Kong au Chili, en passant bien sûr par l'Algérie. Donc il y a, voilà, c'est évidemment que ça reste une possibilité, une alternative réelle.
Alors, comme je le rappelais en début d'interview, vous faites une série de conférences sur cette Commune de Paris, dont on a fêté, on rappelle, les 100, enfin, fêté, c'est un bien grand mot, mais dont on commémore les 150 ans. On les a commémorés, c'était au printemps, on les a commémorés. Enfin, qu'est-ce que vous allez essayer de... C'est quoi l'idée directrice que vous allez défendre dans votre conférence ce soir? Ce sera plutôt une conférence pédagogique, ce sera plutôt une conférence pour donner peut-être à apprendre.
Alors déjà, moi, je compte beaucoup sur la discussion, sur le débat, enfin un peu sur le mode même que la commune avait adopté, c'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'il y ait comme des clubs populaires où on partage des savoirs et des savoir-faire, des connaissances, et puis surtout où on réfléchit non seulement à l'histoire, au passé, mais aussi, comme vous l'avez souligné d'ailleurs dans vos questions précédentes, au présent et à l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qui est désirable, etc. Ensuite, j'essaye de redonner vie à la commune au travers de ses protagonistes, et notamment de celles et ceux qui ne sont pas très connus, parce que souvent, quand on pense à la commune, on a en tête l'exemple de Louise Michel. C'est un peu la figure qu'on a retenue de la Commune de Paris. Parfois, on a à l'esprit aussi un écrivain et journaliste comme Jules Vallès, hein, qui a lui aussi, comme Louise Michel, survécu au massacre de la Semaine sanglante, hein, qui a vu assassiner entre 10 000 et 20 000 personnes dans Paris. Mais moi, ce qui m'intéresse tout autant, ce sont les milliers justement de femmes et d'hommes ordinaires, presque anonymes, mais dont il s'agit de retrouver les noms, de retrouver les histoires, les vies, les trajectoires. Donc j'ai fait tout un travail d'archives pour ça. J'ai écrit un livre aussi en m'adressant à ces femmes et à ces hommes, les connus comme les inconnus, les artistes comme les ouvrières, voilà, et dans cette diversité. Et c'est ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est vraiment de redonner l'intensité, la densité, la consistance de ces existences, des espoirs, des projets qui étaient conçus à cette époque.
Eh ben, on espère en tout cas que vous y arriverez au cours des trois donc conférences que vous animez. On rappelle donc ce soir à Ussel, demain vendredi 5 novembre à Faux-la-Montagne en Creuse, et samedi 6 novembre, ce sera à Limoges. Merci Ludivine Bantini.
Merci beaucoup.